Merci pour l'accueil. Merci au Seigneur pour sa présence. C'est bon, hein? Dites à votre voisin, je suis content de te voir ce matin. Ça a l'air vrai parce qu'il y a plein de sourires, plein de joie sur votre cœur. Alors ce matin, je vais vous partager un thème. J'ai intitulé ce message « L'argent, serviteur ou maître ?» Et je vais aussi, parce que je trouvais que c'était... faire d'une pierre deux coups, vous faire partager aussi cette réflexion et voir aussi certaines choses par rapport à ce thème. Alors je vois tout de suite certains qui se bloquent, qui se crispent. Là. Alors je vais vous détendre déjà. Est-ce que donner, c'est pas perdre, mais c'est participer au royaume de Dieu. Donc ça pose déjà un petit peu le contexte. Alors c'est vrai que c'est un sujet sensible, parfois très mal compris, parfois évité, l'argent. Dans nos pays, je dirais en Suisse, on n'en parle pas forcément facilement, peut-être qu'en Afrique ou aux États-Unis, on en parle beaucoup plus facilement, ou au Brésil ou dans d'autres pays. Et pourtant on va voir au travers de la Bible certaines révélations, certaines choses que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas, mais j'espère en tout cas que chacun... sera enrichi aussi. On estime à plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent directement d'argent. C'est pas rien, hein ? 2000 versets de la Bible, des richesses, des biens matériels, de la gestion financière, de la générosité, de l'avarice, etc. Donc il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent de biens financiers, de biens matériels. Et dans l'Ancien Testament, beaucoup de textes concerne la justice sociale, les dettes, les prêts, la générosité envers les pauvres, la dîme et les offrandes. Par exemple, dans le livre des Proverbes, il y en a beaucoup, dans le Deutéronome également. Dans le Nouveau Testament, figurez-vous, Jésus parle très souvent des richesses. Environ 40% de ses paraboles concernent l'argent ou la possession. 40% des paraboles parlent de biens, parlent d'argent, parlent de choses... qu'on possède. L'évangile de Luc est celui qui aborde le plus le sujet. Il parle plus d'argent que du ciel ou de l'enfer. C'est vrai, vous pouvez comparer, hein, enfin, chercher, vérifier, c'est important, hein, d'examiner aussi, de vérifier dans vos Bibles, et peut-être que ça vous parlera aussi de rechercher aussi si ce qu'on vous dit est vrai, évidemment. Exemple, il y a le jeune homme riche. Il y a la parabole des talents, il y a l'intendant infidèle, il y a le riche insensé. Et malgré ça, le thème de l'argent dans l'Église est souvent un sujet sensible. Alors c'est une réaction à toute la théologie de la prospérité. Et forcément, quand il y a des excès dans un sens, eh bien on se dit « il vaut mieux pas trop en parler ». Parce qu'il y a eu des excès, c'est un sujet sensible, donc... prudence. C'est comme avec le Saint-Esprit d'ailleurs, il y a eu certaines manifestations, des trucs bizarres qui se sont passés, et du coup, par peur, eh bien on va éviter. Pourtant la Bible parle des dons spirituels, parle du baptême du Saint-Esprit, parle du Saint-Esprit, la Bible parle de ces choses, mais parce qu'il y a eu des excès, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, je dirais, bizarrement, qui correspondent pas aux valeurs de la Bible, eh bien on va mettre de côté les choses sur le Saint-Esprit. Pour l'argent, eh bien on dit « Ah, il y a eu des excès, il y a de la pression, on va mettre de côté ». Et pourtant, la Bible en parle, comme je vous ai dit, il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent d'argent, de possession et d'autres choses. Mais ce matin, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'adoration. Il ne s'agit pas de finance, il s'agit de confiance. Et il ne s'agit pas de ce que Dieu veut prendre, mais de ce qu'il veut former en nous. Et la dîme et les offrandes, ce n'est pas d'abord une question économique. Je crois sincèrement que c'est une question spirituelle. Une question spirituelle parce que notre monde, on le dit aussi, hein, pas forcément dans les milieux chrétiens, ce qui fait couler l'humanité, les gens, on dit toujours c'est le sexe, l'orgueil et l'argent. Il y a trois maîtres principaux dans ce monde qui polluent, je dirais, les relations humaines. Et l'argent, eh bien, c'est souvent un très mauvais maître. Dans Genèse 14, déjà, Vous avez peut-être lu avec Abraham et Melchisédek. Abraham, qui n'était pas encore appelé Abraham, il revient d'une victoire militaire. Il y a des rois de Mésopotamie qui ont envahi la région où il était. Lot, le neveu d'Abraham, est capturé. Abraham rassemble 318 hommes, poursuit les rois et libère Lot et les captifs. Alors pourquoi 318 et pas 319 ? J'en sais rien. Il y a des fois des trucs dans la Bible qui nous surprennent, hein, des détails comme ça croustillants. Il récupère aussi les biens pillés qui sont là. Et au retour de la bataille, deux rois viennent à sa rencontre. Il y a le roi de Sodome et Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, nous dit la Bible. Melchisédek apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Et il reconnaît que la victoire vient de Dieu. Et Abraham lui donne la dîme de tout le butin, bien avant la loi, bien avant l'établissement de la loi en Israël. Et par ça, Abraham reconnaît que sa victoire ne vient pas de sa stratégie militaire, mais de Dieu. La dîme, c'est le 10% de tout ce que les gens possédaient, en argent, en matériel, en blé, en farine, enfin, etc. En donnant la dîme à Melchisédek, il honore Dieu avant même que la loi de Moïse existe. Et ce passage pose les bases du principe de la dîme comme acte volontaire de reconnaissance et d'adoration. Alors pourquoi ? Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Plus tard, Dieu dira à son peuple dans Malachie 3, certaines choses, alors Malachie, c'est bien plus tard, c'est entre 470 et 430 avant Jésus-Christ. Israël était sous la domination perse et le culte a repris, mais sans un bien grand enthousiasme. Ils avaient repris le culte, mais ils venaient comme ça, sans être vraiment touchés par l'Esprit de Dieu, sans y mettre tout leur cœur. Ils étaient à demi-mesure. Et c'est là qu'on trouve ce texte de Malachie 3 au verset 6 et suivant, que vous pouvez lire soit dans vos Bibles, soit affiché. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi. » Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu. Ce texte, il ne parle pas d'abord d'argent. Curieux, hein ? Il ne parle pas d'abord d'argent. Il parle de quatre réalités d'alliance. Dieu reste fidèle malgré l'infidélité. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Lui, il ne change pas. Nous, on change parfois. Nous, on se détourne. Mais il rappelle déjà qui il est. Je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Il n'y a pas de changement. Il reste fidèle malgré l'infidélité du peuple. Le péché principal du peuple à l'époque-là, c'est l'indépendance. Il veut faire par lui-même. Je crois que ça nous ressemble aussi bien souvent. On veut faire par nous-mêmes. Et la dîme révèle aussi la confiance du cœur. Finalement, la peur de manquer et autres. On ne veut plus trop s'appuyer sur Dieu, donc on se dit, ben, s'il nous reste un petit peu, on donnera. Mais curieusement, quand on attend de voir s'il reste quelque chose, il ne reste rien, en fait. Et Dieu, il dit, mettez-moi à l'épreuve. L'obéissance va restaurer la vie communautaire. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. La dîme dans Malachie, ce n'est pas un paiement à Dieu, mais c'est un signe de loyauté envers le roi de l'Alliance. C'est cette loyauté envers lui. Et on traitera peut-être ce texte à la lumière du Nouveau Testament une autre fois. La différence fondamentale entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, eh bien c'est l'Ancienne Alliance donne 10% pour rester dans la bénédiction. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est « Tu as reçu la bénédiction en Christ, maintenant donne avec reconnaissance. » Il fallait, dans l'Ancienne Alliance, donner absolument ces 10% pour rester dans la bénédiction. Autrement, eh bien c'était une désobéissance à la loi. Aujourd'hui, en fait, c'est très différent. La mentalité du Nouveau Testament, c'est tu as tout reçu. Tu as reçu la bénédiction en Jésus-Christ. Alors donne avec reconnaissance. Mais pour autant, je ne crois pas que ce principe du 10% tombe. C'est juste que ce n'est plus forcément une limite minimale. C'est tout. Sous la loi, c'est une obligation externe. Sous la grâce, c'est une transformation interne. Et c'est très différent. Finalement, ce n'est plus quelque chose qu'on doit faire pour être dans la bénédiction. Ce n'est plus quelque chose qui est une obligation, mais c'est parce qu'il y a une transformation du cœur eh bien, qu'on va être poussé à exprimer notre reconnaissance. La question n'est plus « suis-je maudit si je ne donne pas 10% ?» mais « comment mon cœur transformé par la grâce exprime-t-il sa reconnaissance ?» Et c'est ça, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de mentalité, un changement de façon de voir. La dîme, c'est donc pas une taxe religieuse ni un paiement pour acheter la bénédiction, mais c'est un acte d'alliance, un acte de foi, un acte d'amour. C'est faire confiance à Dieu et c'est reconnaître aussi que tout lui appartient, tout vient de lui. Nous lui appartenons aussi. Et aujourd'hui, on va pas regarder combien donner. Mais pourquoi Dieu demande-t-il de donner ? Et c'est très différent. Combien donner, ça vous regarde ? Ça vous regarde. Matthieu 6, 19 à 21, nous dit ceci, et c'est Jésus, donc c'est fiable. Hein ? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Massez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là est ton cœur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'est pas en manque de liquidité, rassurez-vous. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Mais Dieu se sert aussi de la dîme, des offrandes, pour travailler quelque chose de plus profond que nos finances et notre cœur. Et c'est ce principe qu'il faut bien comprendre. Regardons quelques points ce matin. Déjà, Dieu est le propriétaire et nous sommes les intendants. Tout lui appartient. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a construits. On a été créés par lui et pour lui finalement. Il est le propriétaire. La Bible commence par une vérité fondamentale au psaume 24, versets 1 et 2. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient, c'est vous, c'est moi, c'est tout. Tout ce qu'elle contient, finalement, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. On ne s'appartient pas. On est les gestionnaires même de notre corps. La Bible nous dit même que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, quelque part, là où devrait régner la présence de Dieu. On pense souvent « mon argent, mon travail, mes ressources », mais en réalité, Dieu nous confie des biens pour qu'on les gère pour sa gloire. Dieu nous confie des qualifications aussi, des dons, des talents. Dans Genèse, Dieu place l'homme dans le jardin, non comme propriétaire, mais comme gestionnaire. Dieu donne le jardin à l'homme, mais ne lui donne pas la propriété. La première illusion de l'homme, c'est de dire « c'est à moi, c'est à moi ». Là encore, la Bible, elle est géniale, d'ailleurs, ça vaut la peine de la lire. La Bible nous dit « qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Pourquoi s'enorgueillir ? Même notre capacité de réfléchir aujourd'hui, même demain, on ne sait pas. Moi, j'ai vu des gens, et ça restera jusqu'à mon dernier souffle, des questionnements aussi, des amis proches. Un ami proche notamment qui avait fait les PFL, qui s'amusait dans ses loisirs à retraduire la Bible du grec au français, c'était ses hobbies, comme ça. Et tout à coup, il a fait il y a une petite opération, ils ont posé un stand, ça s'est mal passé, ça a bouché une artère. Et du jour au lendemain, il ne savait même plus lire, même plus écrire, même plus compter. Et de le voir avec des petits cubes chez le médecin ou à la maison, des petits cubes, là c'est une girafe, là c'est un éléphant, là c'est... Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? On est bien peu de choses. Alors la première illusion, c'est de dire c'est à moi. Même moi, je ne m'appartiens pas finalement. J'appartiens à Dieu. Ton souffle aussi appartient à Dieu. C'est le souffle de vie. Ta force, elle vient de Dieu. Ton intelligence vient de Dieu. Ton travail vient de Dieu. Si tu es capable de faire des choses, oui, c'est parce que tu as travaillé, parce que tu as peut-être fait des études, parce que tu as fait des choses pour. Mais si tu as eu cette possibilité de le faire, c'est parce que Dieu t'en a rendu aussi capable. Même la volonté, c'est Dieu qui fortifie notre volonté. Tout nous vient de Dieu. Et on n'est pas le propriétaire, on est les intendants. Et un jour, Dieu demandera « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié ?» La dîme et l'offrande commencent donc par une révélation « Je ne donne pas à Dieu, je lui rends ce qui lui appartient déjà. » Et c'est très différent. Ce n'est pas parce que le pasteur prêche bien ou insiste sur l'argent qu'on va donner. Et c'est faux, ce genre de mentalité. C'est pas parce que tout à coup, il y a un enfant qui pleure sur une belle vidéo et puis que nos émotions sont touchées qu'on va donner plus. Ça, c'est juste des émotions, de la manipulation, des techniques managériales. C'est très différent. N'oubliez pas que Dieu n'a pas besoin de nos dons. Au psaume 50, verset 12, c'est un psaume d'Asaph. Dieu dit « Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Dieu n'a pas besoin de nos finances. Tout lui appartient déjà. Et c'est très différent comme état d'esprit. Même l'argent qu'on pense lui donner lui appartient déjà. Dieu n'a jamais été frustré une seule fois par un quelconque manque d'argent. Peut-être nous, oui, mais pas Dieu. Alors pourquoi c'est important pour Dieu qu'on lui donne ? Pas parce qu'il a besoin de notre argent, mais parce qu'il veut notre cœur. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on donne avec joie. Alors Dieu est le propriétaire, nous sommes les intendants. La dîme, c'est aussi reconnaître Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. La dîme signifie le dixième. Avant même la loi de Moïse, Abraham donne la dîme. Abraham donne la dîme à Melchisédek dans Genèse 14, verset 20. Puis Dieu institue clairement dans le Lévitique cette loi de la dîme. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme appartient à l'Éternel. La dîme, ce n'est pas une taxe religieuse. La dîme, c'est un acte spirituel. C'est mettre Dieu à la première place financièrement. C'est reconnaître. Reconnaître Dieu en premier. Jésus confirme le principe aussi dans Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Troisième chose, pourquoi Dieu demande-t-il la dîme ? Pas parce qu'il a besoin d'argent, comme je vous ai dit, mais parce qu'on a besoin d'apprendre à dépendre de lui, d'apprendre à lui faire confiance, d'apprendre la reconnaissance aussi. Dans Malachie 3.10, on a vu « apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ou les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » La dîme combat trois idoles dans nos vies. L'amour de l'argent, l'indépendance humaine et la peur du manque. La peur du manque. Donner, c'est déclarer « ma sécurité ne vient pas de mon salaire, mais de Dieu ». Quand tu payes tout avant Dieu, Dieu devient ton reste finalement. Mais quand tu donnes à Dieu en premier, il devient ta source. Dans la pensée qu'on voit dans l'Ancien Testament, il devait donner avant les prémices, les premières choses. La dîme, elle n'est pas financière, elle est spirituelle, c'est un acte de guerre contre l'incrédulité. Quatrième chose, les offrandes, c'est aussi donner par amour. La dîme, c'est une base, l'offrande, c'est une relation. Dans 2 Corinthiens 9, il est écrit, cette grande offrande aussi pour les chrétiens de Jérusalem, dans 2 Corinthiens 9, il est écrit, « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça aussi, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a un panier qui passe dans les rangs ou comme ça qu'on va se sentir obligé de donner. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Qu'il y ait un panier ou pas de panier, ça ne change rien dans la mentalité. Dans l'exigence, dans la volonté, dans la reconnaissance. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Ce n'est pas comme le pasteur a insisté. C'est comme il l'a décidé dans son cœur, entre vous et Dieu. Dans la reconnaissance aussi que tout appartient à Dieu. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres sa justice subsiste à toujours. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes amis, si vous n'avez pas envie de donner, donnez pas. Sans regret ni contrainte. Ça vous choque? C'est ce que la Bible dit, finalement. Si on n'a pas compris le principe... Peut-être qu'il y a des choses qu'on doit encore travailler dans nos vies, dans nos cœurs, prier. Pourquoi ? Pourquoi donner ? D'ailleurs, dans toute la liste des dons spirituels qu'on demande, la guérison, la prophétie et autres choses, facilement, il y en a un dans cette liste qui me surprendra toujours, c'est la libéralité, la générosité. Vous avez déjà prié ? Seigneur, donne-moi le don de la libéralité. Ça fait partie de la liste des dons, hein, je m'excuse. Ça fait partie de la liste des dons, mais il est peut-être moins populaire dans celui qu'on demande. Plutôt la guérison, la prophétie, et ça, oui, facilement. Mais la libéralité, il est dans la liste, hein. Vous pouvez le trouver. C'est dans Romains 12, 6 à 8. Romains 12, c'est possible. Alors Dieu ne regarde pas le montant, il regarde le cœur finalement. Et c'est très important, souvenez-vous de la veuve dans Marc 12, elle donne deux petites pièces et Jésus dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Ce n'est pas la quantité, c'est le cœur. Alors ça, c'est quand même particulier comme texte, Marc 12. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Waouh, quelle confiance! Quelle confiance, mes amis, pour un multimillionnaire de donner 100 francs, ça change quoi? Pour quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses factures, qui galère avec peut-être 2, 3 000 francs par mois, voire pas beaucoup plus, avec un loyer et autres, 100 francs, ça fait une différence. Ça fait une grosse différence. Pourquoi elle a donné plus que tous? Parce qu'elle a donné avec foi tout ce qu'elle avait. C'est Jésus qui le dit, donc c'est fiable. Marc place ce récit juste avant la croix. La veuve donne tout ce qu'elle a. Et Jésus va donner tout ce qu'il est à la croix. Elle donne pour vivre. Jésus va donner pour nous sauver. Elle annonce l'évangile, là aussi, par son geste. Alors pourquoi donner? C'est aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, l'Église explosait, les malades guérissaient, les pauvres mangeaient, les âmes étaient sauvées. Il y avait des gens qui venaient en foule, 3000 âmes sauvées tout à coup, enfin voilà. Et comment cela avançait? Parce que les croyants donnaient. C'était même dit, un temps, ils mettaient tout en commun. Paul déclare dans 1 Corinthiens que ceux qui annoncent l'évangile vivent aussi de l'évangile. Quand tu donnes, tu n'achètes pas une bénédiction, tu peux financer aussi un miracle. La possibilité que l'évangile avance, la possibilité aussi que l'Église soit généreuse et finance des missions, des œuvres. Chaque âme sauvée devient un fruit sur ton compte éternel. Je ne sais pas si vous savez la valeur d'une âme. Et dans l'Église primitive du livre des Actes des Apôtres, personne ne manquait de rien, nous dit les textes. Relisez les Actes des Apôtres et vous verrez. C'est vrai, les ministères étaient soutenus et l'Évangile avancé. Paul enseigne dans 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Quand tu donnes, tu nourris les pauvres, tu permets la prédication, tu participes au salut des âmes et tu deviens partenaire du royaume de Dieu. Amen. Un point supplémentaire, c'est le sixième. La loi spirituelle aussi de la semence. Dans 2 Corinthiens 9, 6, celui qui sème peu moissonnera peu. C'est ce texte qu'on a lu au point 4. Donner, c'est pas acheter Dieu, c'est entrer aussi dans une loi spirituelle, la semence. Si un agriculteur, alors ça se fait plus trop comme ça, maintenant on achète les graines qui souvent, on ne peut plus garder une partie du blé pour le semer parce qu'il ne va plus germer en fait. C'est fait pour qu'on doive acheter les graines aux entreprises, donc ça c'est aussi assez bizarre, mais je dirais dans le contexte de la Bible, eh bien, celui qui garde toute sa semence, tout son blé, et qui ne va pas en ressemer, ben, finalement, il n'en aura plus. Donc le paysan, l'agriculteur de l'époque, était obligé de semer une partie pour que ça germe et pour que ça continue de porter du fruit et qu'il puisse continuer de manger. S'il mange tout son blé en disant il ne va plus pouvoir manger finalement. Donc donner participe aussi eh bien, cette loi de la semence. Dieu n'est pas un banquier, Dieu est un cultivateur. Tu gardes, ça finit par se terminer. Tu sèmes, ça va pouvoir se multiplier aussi. Celui qui sème peu, moissonnera peu. La semence va quitter ta main, mais participer aussi à ton futur. Certaines personnes prient pour la provision, alors qu'elles bloquent aussi leur moisson. Elles gardent tout pour elles. Si Dieu pourvoit, ben peut-être Dieu pourvoit aussi à travers toi. Et septième point, Jésus, c'est le modèle ultime du don. Le christianisme n'est pas basé sur ce qu'on donne, mais sur ce que Dieu a donné. Dans Jean 3,16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et si aujourd'hui, eh bien, on peut se savoir sauvé, c'est une certitude. C'est une certitude. L'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. L'Esprit témoigne qu'on est sauvé. Eh bien, c'est parce que Dieu n'a pas gardé son Fils, mais il l'a donné pour nous. On a participé à la Sainte Cène juste avant aussi, et c'est ce souvenir aussi de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Dieu a donné sa vie pour nous, pour qu'on ait la vie. Dieu a donné son Fils. Alors le christianisme commence par un don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu n'a pas donné de l'or, il a donné son Fils. Alors comment aimer Dieu sans devenir donneur, donateur? Un chrétien avare est une contradiction vivante. Dieu ne nous demande jamais ce qu'il n'a pas fait lui-même, il a donné ce qui avait de plus précieux. Et on est appelé déjà à se donner nous-mêmes, à donner notre vie en premier. Notre argent aussi un peu, bien évidemment, mais ce qu'il attend en premier, c'est notre cœur. Et de cette relation va découler aussi tout le reste. Donc la question, c'est plus combien dois-je donner ? Mais puis-je aimer finalement sans donner? Est-ce que je peux aimer sans donner? Alors en conclusion, la dîme enseigne la priorité. L'offrande révèle l'amour. Donner transforme ton rapport à l'argent, ton cœur, ton éternité. Tu ne perds jamais ce que tu donnes à Dieu, tu le transfères dans le ciel. Tu le transfères dans le ciel. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas ton argent, mais il cherche ton cœur, il veut briser la puissance de l'argent sur ta vie. La dîme va briser l'idolâtrie, la soif de posséder. C'est à moi, c'est pour moi. Je. La dîme brise ce cercle vicieux. L'offrande va libérer aussi la foi, faire confiance à Dieu. La générosité va ouvrir aussi le ciel, j'en suis persuadé. Alors pose-toi la question, qui contrôle ta vie ? Dieu ou la peur de manquer? Qui contrôle ta vie? Et tu peux décider aussi, je ne serai pas le propriétaire, mais je serai l'intendant. Désormais, je ne me considère plus comme un propriétaire, mais comme un intendant des biens que Dieu m'a confiés. Je ne donnerai pas par obligation, mais par adoration, parce que je reconnais que tout vient de Dieu, et c'est très différent. Et tu peux répéter dans ton cœur, « Seigneur, tout vient de toi ». Vous pouvez même le dire à haute voix, « Seigneur, tout vient de toi. Seigneur, tout vient de toi. Je refuse de vivre dominé par l'argent, c'est un poison. » Vous savez, mes grands-parents Rottenbüller, des grands-parents Schneider du côté de ma mère, mais Rottenbüller, mon père avait, ils étaient 9 enfants, donc c'est pas mal hein, quand même. Ils avaient une ferme dans le Jura, à côté de Seignelégier, au Chaumont, Chaumont vers Seignelégier, vers l'étang de Gruyère, là, Gruyère. Une magnifique ferme. 9 frères et sœurs. L'envie que ce terrain se poursuive, que le domaine des franches montagnes puisse tout ce que le père, le grand-père, la famille avait fait, eh bien se poursuivre, mais c'était impossible d'acheter pour un frère. Donc tous ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont donné à leur frère qui voulait poursuivre le domaine. Une année ou 2-3 ans plus tard, il a tout vendu à un avocat balois pour reconstruire sa villa. Inutile de vous dire que je n'ai pas connu mes cousins et mes cousines. L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent détruit, L'argent divise. L'argent détruit des relations. Même une fois, on était à la Migros, à la Chaux-de-Fonds, avec ma mère. Je devais avoir une dizaine d'années et autres. Et puis, il y a une dame qui vient. Alors, moi, je suis un peu plus jeune que mes frères. Voilà, il y a une dame qui arrive. Ma mère la salue et autres. Puis, moi, je dis bonjour, madame. Forcément, j'étais bien éduqué. Puis, elle me dit, mais c'est ta cousine. Ben, fallait déjà que je le sache. Voilà. Elle s'appelait autant Rottenmüller que moi. Voilà. Mais... la connaissait pas. Bonjour madame. Bref, l'argent. Mon cœur t'appartient et mes ressources aussi. Alors Dieu est jamais débiteur de l'homme. Vous savez, quand on donne, Dieu a pas de dette envers nous. Je crois toujours au principe aussi que Dieu bénit. Mais quand on donne sans contrainte, pas par obligation, pas non plus dans une mauvaise compréhension, avec une pression, donne tout, tu verras, Dieu te donne au centuple. Si tu donnes dans cet état d'esprit, stop, arrête. Retravaille le thème. Réécoute peut-être ce message, mais ce n'est pas la théologie de la prospérité. Pour que le pasteur roule en Ferrari. Réfléchisse, gros, grave problème comme certains pasteurs, son deuxième ou troisième jet, de quelle marque il sera? Non, mais c'est une honte pour l'Évangile, mes amis. Et à cause de ça, on n'ose plus parler de ce thème franchement biblique, des dîmes, des offrandes et de la générosité. Que chacun donne sans contrainte, comme il l'a résolu dans son cœur. Amen. Alors, que tout se fasse aussi par amour. C'est ce verset que j'ai prêché... le premier dimanche où j'ai prêché cette année, je ne sais plus, c'était autour du 15-20 janvier, 1 Corinthiens 16, 13 à 14, « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. » Là aussi, le domaine de l'argent, que l'amour inspire toutes vos actions. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton Église. Seigneur, ici réunie à Bienne, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction sur nos vies. Merci aussi de nous délivrer, délier, Seigneur du Dieu Mammon. Seigneur, cette soif de posséder ou de la peur de manquer, peut-être certains sont comme liés par cette peur du manque. Seigneur, ou cette soif d'avoir un peu plus de... Seigneur, là aussi, eh bien tu transformes les cœurs, tu nous délivres, Seigneur, de cette mauvaise conception aussi des finances. Et tu nous gardes en toi, Seigneur, dans ta parole. Merci parce que ta parole, elle est sage. Ta parole nous donne tout. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où, Seigneur, eh bien, ce thème a été mal enseigné, où il y a eu des pressions sur les gens, où il y a eu de la contrainte, où il y a eu toutes ces théologies aussi de la prospérité pour enrichir que quelques personnes au détriment d'autres. Mais Seigneur, merci aussi, Seigneur, de parler à nos cœurs par ton esprit, par rapport à ce thème, et de nous donner, Seigneur, d'avoir une saine compréhension, Seigneur, des dîmes, des offrandes, et Seigneur, de ce que tu nous demandes par rapport à ce que tu nous as donné, Seigneur, pour qu'on les gère pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.